Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat et bienvenue dans votre émission Page à page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur Radio Occitanie. Alors une petite précision, vous pouvez écouter Radio Occitanie en midi toulousain sur 98.3, mais également dans le Comminges sur 89.4, en Ariège sur 106.1 et également sur internet www.radio-occitania.com.
Voilà. Radio Occitanie
05 61 80 40 40.
Oh, merci Roger de cette petite précision. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Radio Occitanie, mais bon, on peut l'écouter en dehors du midi toulousain. Donc aujourd'hui, je devais recevoir un directeur de maison d'édition toulousaine, mais il n'a pas pu venir. Donc nous allons poursuivre cette demi-heure en faisant quelques petites annonces et je vais vous lire une nouvelle également. Enfin bon, on va profiter de cette demi-heure tout à fait pleinement. Donc dans un premier temps, je vous rappelle que samedi 17 septembre, donc ce samedi, à la médiathèque José Cabanis à 17h, vous avez la lecture à deux voix, donc français et espagnol, de la compagnie Autremot, avec Anne Cameron et Christian Marc, des extraits du chant général de Pablo Neruda. Donc c'est au petit auditorium au troisième étage de la médiathèque et je vous invite donc à aller écouter ces extraits du chant général qui, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit les autres jeudis précédemment, qui a été publié en 1950 alors qu'il était en exil en clandestinité et qui est un poème épique en 15 chants et qui parle de tout le continent, toute l'histoire de l'Amérique latine. Donc samedi 17 septembre à 17h à la médiathèque, c'est sans inscription, c'est gratuit, c'est au troisième étage. Je vous donne le numéro si vous avez besoin d'autres renseignements, 05 62 27 40 00. Voilà, ça c'était pour la petite annonce de samedi. J'en ai une autre pour la médiathèque, donc toujours l'heure du conte tous les mercredis pour les enfants. Là c'est au Red Jardin de la médiathèque José Cabanis, à la section Piccolo Teatro. Alors c'est tous les mercredis à 11h pour les petits de 2 à 4 ans et pour les plus grands c'est à partir de 15h, c'est à partir de 5 ans hein, pour l'après-midi. Donc c'est tous les mercredis, c'est sans inscription non plus, c'est gratuit et donc ça permet de passer un après-midi ou une matinée sympathique avec vos petits pour écouter des histoires lues par des conteurs et des conteuses à la médiathèque de Toulouse.
Page à page, Claire Ambille.
Poupoupitou. Alors j'ai une amie qui est professeur de français et qui a cette année des sixièmes et des quatrièmes. Et pour ces quatrièmes, elle a choisi de leur faire étudier une petite nouvelle. En fait, c'est quelques pages d'un auteur qui s'appelle Pascal Mérigeau et qui a écrit donc un tout petit texte, mais alors qui est très très riche. Je vais vous le lire et vous allez comprendre. Il faut l'écouter très attentivement parce qu'en fait c'est vraiment comme une petite histoire policière. Enfin moi j'ai vraiment bien aimé et donc l'ami qui est professeur de français l'a fait donc étudier à ses quatrièmes et ils se sont bien régalés aussi. Alors j'espère que ça va être pareil pour vous. Alors je vais vous la lire. Donc le titre, ça s'appelle « Quand Angèle fut seule ». 3 points de suspension. Bien sûr, tout n'avait pas toujours marché comme elle l'aurait souhaité pendant toutes ces années. Mais tout de même, cela lui faisait drôle de se retrouver seule, assise à la grande table en bois. On lui avait pourtant souvent dit que c'était là le moment le plus pénible, le retour du cimetière. Tout s'était bien passé, tout se passe toujours bien d'ailleurs. L'église était pleine. Au cimetière, il lui avait fallu se faire embrasser par tout le village, jusqu'à la vieille Thibault qui était là, elle qu'on n'avait pas vue depuis un an au moins, depuis l'enterrement d'Émilie Martin en fait. Et encore, y était-elle seulement à l'enterrement d'Émilie Martin? Impossible de se souvenir. Par contre, Angèle aurait sans doute pu citer le nom de tous ceux qui étaient là aujourd'hui. André, par exemple, qui lui faisait tourner la tête au bal il y a bien 40 ans de cela. C'était avant que n'arrive Baptiste. Baptiste et ses yeux bleus. Baptiste et ses chemises à fleurs. Baptiste et sa vieille bouffarde qu'il disait tenir de son père qui lui-même... En fait, ce qui lui avait déplu aujourd'hui, ça avait été de tomber nez à nez avec Germaine Richard à la sortie du cimetière. Celle-là, À 60 ans passés, elle avait toujours l'air d'une catin, qu'elle était d'ailleurs. Angèle se leva. Tout cela était bien fini maintenant. Il fallait que la mort quitte la maison. Les bougies tout d'abord, et puis les chaises, serrées en rang d'oignons le long du lit. Ensuite le balai. Un coup d'œil au jardin, en passant. Non, décidément, il n'était plus là, penché sur ses semis, essayant pour la troisième fois de la journée de voir si les radis venaient bien. Il n'était pas non plus là-bas, sous les saules, ni même sous le pommier, en plissant un panier. Vraiment, tout s'était passé très vite depuis le jour où, en se réveillant, il lui avait dit que son ulcère recommençait à le taquiner. Il y était pourtant habitué depuis le temps. Tout de même, il avait bientôt fallu faire venir le médecin. Mais celui-ci le connaissait trop bien pour s'inquiéter, vraiment. D'ailleurs, Baptiste se sentait déjà un peu mieux. 3 semaines plus tard, il faisait jurer à Angèle qu'elle ne le laisserait pas l'emmener à l'hôpital. Le médecin était revenu, il ne comprenait pas. Rien à faire. Baptiste, tordu de douleur sur son lit, soutenait qu'il allait mieux, que demain, sans doute, tout cela serait déjà oublié. Mais quand il était seul avec elle, il lui disait qu'il ne voulait pas mourir à l'hôpital. Il savait que c'était la fin, il avait fait son temps. La preuve, d'autres, plus jeunes, étaient partis avant lui. Il aurait seulement bien voulu tenir jusqu'à la Saint-Jean. Mais cela, il ne le disait pas. Angèle le savait, et cela lui suffisait. La Saint-Jean, il ne l'avait pas vue cette année. Le curé était arrivé au soir, Baptiste était mort au petit jour. Le mal qui lui sciait le corps en deux avait triomphé. C'était normal. Angèle ne l'avait pas entendu arriver. Cécile, après s'être changée, était venue voir si elle n'avait besoin de rien. De quoi aurait-elle pu avoir besoin? Angèle la fit asseoir. Elles parlèrent. Enfin, Cécile parla. De l'enterrement, bien sûr, des larmes de quelques-uns, du chagrin de tous. Angèle l'entendait à peine. Baptiste et elle n'étaient jamais sortis de Sainte-Croix, et elle le regrettait un peu. Elle aurait surtout bien aimé aller à Lourdes. Elle avait dû se contenter de processions télévisées. Elle avait aimé son Baptiste, dès le début, ou presque. Pendant les premières années de leur mariage, elle l'accompagnait au champ pour lui donner la main. Mais depuis bien longtemps, elle n'en avait plus la force. Alors, elle l'attendait, veillant à ce que le café soit toujours chaud, sans jamais être bouillant. Elle avait appris à le surveiller du coin de l'œil, levant à peine le nez de son ouvrage. Et puis, pas besoin de montre. Elle savait quand il lui fallait aller nourrir les volailles, préparer le dîner. Elle savait quand Baptiste rentrait. Souvent, Cécile venait lui tenir compagnie. Elle apportait sa couture et en même temps, les dernières nouvelles du village. C'est ainsi qu'un jour, elle lui dit, sur le ton de la conversation bien sûr, qu'il lui semblait bien avoir aperçu Baptiste discutant avec Germaine Richard, près de la vigne. Plusieurs fois, au cours des mois qui suivirent, Cécile fit quelques autres discrètes allusions. Puis elle n'en parla plus. Mais alors Angèle savait. Elle ne disait rien. Peu à peu, elle s'était habituée. Sans même avoir à y réfléchir, elle avait décidé de ne jamais en parler à Baptiste, ni à personne. C'était sa dignité. Cela avait duré jusqu'à ce que Baptiste tombe malade, pour ne plus jamais se relever. Cela avait duré près de 20 ans. Son seul regret, disait-elle parfois, était de n'avoir pas eu d'enfant. Elle ne mentait pas. Encore une raison de détester la Germaine Richard, d'ailleurs. Car elle avait un fils, né peu de temps après la mort de son père, Edmond Richard, un colosse aux yeux et aux cheveux noirs, avait été emporté en quelques semaines par un mal terrible dont personne n'avait jamais rien su. Le fils Richard, on ne le connaissait pas à Sainte-Croix. Il avait été élevé par une tante à Angers. Un jour, cependant, c'était juste avant que Baptiste ne tombe malade, il était venu voir sa mère. Et Cécile, qui était là, bien sûr, puisque Cécile est toujours là où il se passe quelque chose, lui avait trouvé un air niais avec ses grands yeux bleus délavés. Angèle en avait semblé toute retournée. Cécile était partie maintenant. La nuit était tombée. Angèle fit un peu de vaisselle. Elle lava quelques tasses, puis la vieille cafetière blanche, maintenant inutile, puisqu'Angèle ne buvait jamais de café. Elle la rangea tout en haut du bahut. Sous l'évier, elle prit quelques vieux pots à confiture vides. À quoi bon faire des confitures? Elle en avait un plein buffet. Elle prit également quelques torchons. un paquet de morora à trois quarts vide et s'en alla mettre le tout aux ordures. Il y avait bien 20 ans qu'on n'avait pas vu un rat dans la maison. C'était une nouvelle de Pascal Mérigeau. J'espère que ça vous a plu et que vous avez saisi un peu la nouvelle, un peu, enfin le côté un peu policier de l'histoire. On se retrouve après une petite pause. Alors je vais vous proposer une petite pause romantique après une nouvelle un peu ironique et un petit peu dure comme ça. Une petite page romantique. Alors pour ceux qui connaissent et puis pour ceux qui connaissent pas, parce que ça arrive que certains ne connaissent pas Jean Ferrat.
Page à page, Claire Ambille.
Pou pou pitou.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne, qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement? Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rats des inconnus. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi que ce balbutiement?
Page à page, Claire Ambille.
Pou pou pitou.
Nous revoici donc dans votre émission Page à page, après cette petite pause romantique avec Jean Ferrat et son titre mythique « Que serais-je sans toi ?». Voilà, donc j'espère que la petite nouvelle que je vous ai lue précédemment vous a plu. Et donc je vais continuer en vous donnant quelques petits titres de livres qui sont des premiers romans donc de jeunes auteurs ou de moins jeunes d'ailleurs et de cette cuvée 2005 et apparemment les éditeurs ont effectué une sélection assez attentive et ont dénombre beaucoup de nouveaux auteurs et qui font timidement leur entrée dans la carrière littéraire de jeunes écrivains et donc je vais vous donner quelques titres, ceux qui m'ont évidemment le plus plu, hein, comme d'habitude, je vous donne uniquement ce que moi j'aime, quoi, pour vous faire partager. Voilà. Donc je vais commencer. Donc on va retenir quelques titres qui donc de premier roman, qui séduisent par leur ardeur, leur naïveté, une forme de candeur ambitieuse évoquant tour à tour donc l'amour, le rêve, le mensonge, la guerre, le chagrin, la vieillesse. Et ces ouvrages s'invitent au cœur du monde, au cœur de l'histoire. Et donc les inconnus de la rentrée donc se lancent dans la carrière littéraire. Donc est-ce que c'est une simple traversée ou est-ce que c'est un voyage au long cours? Ça, l'avenir le dira pour ces jeunes écrivains en herbe, mais qui sont publiés. Donc le premier, c'est une jeune femme qui s'appelle Aurélie Zarka, et son premier roman s'appelle « À ton image ». Donc Aurélie Zarka, à ton image. Alors je vais vous raconter un petit peu le livre. La narratrice d'Aurélie Zarka juxtapose en fait ses souvenirs d'orpheline aux affres de l'échec amoureux. Alors que se passe-t-il lorsque le modèle initial fait défaut ? À son mal de mère vient s'ajouter la mauvaise conscience. Étais-je une enfant si atroce qu'on avait pris soin de ne garder un an avant de me jeter ? Et en n'ayant jamais connu sa mère, l'héroïne d'Aurélie Zarka n'a pas pu se construire dans le regard de son père, qui était absent aussi, donc double mutilation, auquel l'auteur répond en composant deux récits, en fait, pour un seul et même tableau. Donc deux récits, donc le premier s'appelle « 1 », comme le chiffre 1. Dans ce premier récit, qui s'intitule 1, ça dessine sa mère par défaut. La narratrice n'a qu'une photo pour imaginer celle qu'il a mise au monde. Et donc, un sourire comme la Joconde, c'était une énigme. Et donc, voilà, elle n'a que cette photo où sa mère sourit sur cette photo. Et le numéro 2, donc le deuxième récit, donc ça s'appelle 2, D-E-U-X, reprend ce même procédé, mais cette fois-ci pour peindre le père. Le père, donc, parfois nous l'attendions, il ne venait pas. Ma sœur et moi pleurions comme deux guerriers sans armes sur un terrain désert. Voilà, ce sont des extraits de son livre que je vous lis en même temps. Et la figure paternelle, donc, dans ce deuxième récit, se superpose à celle de Landru, le tueur de femmes. Comme tout père qui rejette sa fille, et celle-ci se trouve ainsi quelque peu morte à l'amour. Et après ce crime qui n'a pas encore de nom, les filles sans père sont des voyageuses solitaires. On les reconnaît à leur mélancolie foncière, comme on repère dans les avions ces enfants sans parents à l'écriteau qu'ils portent autour du cou. Donc 1 et 2, donc sont les deux versants d'une même montagne que l'auteur a dû escalader en s'écorchant un peu corps et âme, manière comme une autre de naître à la littérature. Donc je vous rappelle le titre, c'est très intéressant comme livre, c'est bien écrit, donc deux récits dans un seul, et ça s'appelle « À ton image » et c'est de Aurélie Zarka. Ensuite, je vais vous parler donc d'un deuxième premier roman pour une autre femme, encore une femme, qui s'appelle Fanny Carrel, et le titre de son premier roman s'appelle À ma sœur du bout du monde. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est une lettre, en fait, qui fait 164 pages et que l'on n'aimerait pas vraiment recevoir. Je m'explique. La missive est écrite avec hargne, avec des mots qui blessent, et néanmoins, quelle belle lettre, parce que l'expéditrice s'adresse à sa propre sœur, qui a 40 ans et qu'elle n'a jamais connue. Elles ont un père en commun, mais pas la même mère. Et donc, la narratrice comédienne de son métier possède l'art de faire alterner les temps forts et les moments de douceur. D'abord, quelques phrases enrobées, telles que « Je te tutoie, mais cela m'intimide », puis une grande gifle soudaine « Ta mère est une artiste de la haine ». Et tout au long du récit, une seule fois seulement, le terme de demi-sœur apparaît. Ce sera l'unique marque de tendresse, entre guillemets, dans ce règlement de compte, qui vise finalement la marâtre jugée responsable de ce ratage de vie, à cause d'une femme, donc de la mère, qui n'a pas cessé de harceler judiciairement son ancien mari. Donc, Fanny Carrel parvient à réussir à donner un récit une intensité qui va crescendo. Le paroxysme est atteint en fait dans les dernières pages de son livre, où l'on perçoit la douleur sans qu'elle soit exprimée. Donc, c'est vraiment une grande prouesse de style, une grande prouesse littéraire, quoi, de faire ressentir cette douleur sans vraiment l'exprimer. Donc, le titre de ce premier roman, je vous le rappelle, c'est Amazon. sœur du bout du monde de Fanny Carel. Donc je continue avec un troisième premier roman. Là, cette fois-ci, c'est un homme. Alors, il s'appelle Yvan Améry. Et son premier roman s'appelle « Âme sœur ». Alors, je vous lis pareil, je vous fais un petit résumé. Donc, le Maroc n'est pas une terre promise, encore moins Dakhla. Il n'y a pas de plage là-bas, le Sahara glisse directement sous l'Atlantique. Et Franck ignore alors que Claire, sa sœur, est morte. Lui-même se contente de vivoter entre deux fumettes de shit dans des chambres d'hôtel minables. Le retour dans la campagne picarde entre un père détesté et une mère désespérée n'est pas plus gai. Le narrateur, dans un style cru mais qui ne manque pas d'images, décrit l'existence de ces gens d'ici, ses anciens camarades, les amis de sa sœur, sa famille, les voisins. Une chronique provinciale en somme, version 21e siècle, autant réellement fuir ce petit monde et retourner au Maroc, avec pour tout bagage le journal intime de sa sœur Claire. Et le passé colle pourtant à la semelle du voyageur, sans retour, qui trouve refuge dans les bouges de Tanger, en compagnie de Mariam. Et il dit donc « Cette ville et cette fille me sont faciles, elles sont sales, obscures et embellies de dentelles. » Donc le carnet intime de sa sœur donnera indirectement la clé de la désespérance familiale, comment se débarrasser du venin du mensonge. Alors pour Franck, le passé doit scinder le présent, le miroir traversé, la mort calmée, son deuil sera achevé. Et ce roman est très dur, il est amer, et il est accompagné. Alors voilà, il y a une petite, il y a quelque chose d'insolite, c'est que ce livre est accompagné d'un CD sur lequel sont enregistrées des chansons. Nourri de ces atmosphères, donc, qui parle de cette histoire. Et c'est une initiative très originale que les amateurs de musique auront le choix d'apprécier, tout en laissant au lecteur le plaisir des phrases. Alors, le livre s'appelle Âme sœur d'Yvan Améry, et il est accompagné, donc, de la bande originale du livre. C'est pas la bande originale du film, maintenant, ce qu'on fait, c'est des bandes originales de livres. Et donc, voilà. Donc, je vous invite à écouter la bande originale et à lire ce livre qui est très dur mais très très beau également. Ensuite, je vous parle encore d'un auteur qui s'appelle Pascal Béjanin et qui a écrit son premier roman qui s'appelle Mamo, M-A-2-M-O. Alors Pascal de Béjanin donc est né à La Réunion. Il enseigne les sciences de la vie et de la terre dans un lycée local et il vous donne envie de recommencer des études dans sa classe parce qu'il est tant son roman est beau, il est différent de tout ce qu'on peut lire. Si ce récit attire votre attention, je serai comblée, a-t-il écrit quand il a envoyé son manuscrit à la maison d'édition. Et simplement, bon, c'est une histoire de vie, une histoire vraie pour l'interrogation. Ça, on ne sait pas. Et comme on en lit rarement. Alors, Mamo, c'est un prénom qui s'est donné. C'est un jeune Éthiopien qui est né durant la colonisation de son pays par les troupes italiennes. Alors, Mamo est albinos. C'est-à-dire qu'il a la peau blonde, les yeux rouges et les cheveux jaunes. Bref, il fait peur aux autres. Alors son père a bien tenté de lui expliquer qu'à sa naissance, il a été enveloppé dans un nuage de lune, vous voyez comme c'est joli, mais rien n'y fait. Mamo n'a jamais connu sa mère. Son père, avant que son cœur ne se casse d'usure, lui a également raconté qu'il était né d'une femme appelée la Merveilleuse, qui est partie un jour laver son linge à la rivière et qui n'est jamais revenue. Sans doute se sera-t-elle prise pour un oiseau. Alors Mamo, c'est un petit garçon de 8 ans. Et c'est son oncle qui l'élève, ou plutôt lui apprend à lire, car le vieillard est le seul du village à savoir déchiffrer les articles d'un journal. Et pour survivre, Mamo se débrouille seul. La lecture reste sa seule source d'émancipation. Il lit encore et toujours. Et est-ce grâce à la lecture qu'il comprend qu'il est différent et pourquoi il est différent? Et au milieu de la guerre et des massacres par des Italiens contre les Noirs, il décide de partir. Et s'il descendait de la reine de Saba, pour l'interrogation, et il rencontrera le roi des rois, et c'est lui qui, devant sa sagesse d'enfant, lui demandera conseil. Alors, poursuivre cela est-il perdu d'avance? Se rendre, point d'interrogation, trop naïf? Riez si vous voulez, tant pis pour vous. Vous feriez mieux de vous précipiter sur ce premier texte, très beau, très dur, pur et doux. Donc, c'est Mamo, de Pascal Béjanin. C'est un très beau récit, donc très, très, très beau. Roger, je vais te demander de me passer encore une petite pause musicale avec de nouveau Jean Ferrat.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
Nous revoici donc pour les dernières minutes de Page à Page. Donc, j'étais en train de vous lire quelques récits, quelques résumés de quelques livres que j'avais choisis pour vous. Il m'en reste encore un, donc je vais me dépêcher parce que Roger me presse. Alors, Christine Avel, c'est le nom de l'auteur et ça s'appelle Double Foyer, le titre. Donc, c'est un statisticien qui est amoureux des chiffres, net, carré, lumineux, qui s'allume sur son écran d'ordinateur. Mais Victor est myope comme une taupe. Alors, depuis l'âge de 12 ans, des culs de bouteille s'interpellent pose entre le monde et lui. Alors on l'appelle Miro, Bigleu, Binoclar, Taupe. Longtemps, il a été habitué à souffrir des quolibets des autres, de ses camarades. Et il s'est toujours dit, bien heureux le Bigleu, ils verront Dieu, se répétait-il dans ses prières. Et sans vraiment y croire d'ailleurs. Et un brûlant jour de juillet, une opération de la cornée est l'occasion d'une ultime prière de l'athée myope. Et fait que j'y vois clair, mon Dieu, dit-il, et que la lumière soit. Et la netteté est quelquefois plus inquiétante que le brouillard, finalement. Rendu à la vue, l'existence de Victor bascule alors dans une série de péripéties loufoques. Un chien trépassé, un voisin de palier, une femme suicidaire. Bref, ça improvise autour de lui une danse endiablée. Et le matheux aux lunettes disparu se raccroche alors aux chiffres de nouveau de son ordinateur. Et il comprend alors que le grand amour est une vérité qui se passe de démonstration. Et à défaut, on en trouve sans trouver le théorème, et il en accepte la conjoncture dans les bras d'une traductrice. Alors, Double Foyer est un roman drôle, vivant et bien mené, donc c'est de Christine Avel. Voilà, nous arrivons à la fin de Page à Page. Je vous retrouve jeudi prochain à 9h30 comme d'habitude. Je recevrai Alain Monnier, un écrivain dont on parlera, et ainsi que de ses œuvres. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. À jeudi prochain, au revoir. Il est 10h, vous écoutez Radio Occitanie. Je vous laisse en compagnie de Bénédicte et de son flash culturel.
Radio Occitanie.
Occitanie d'Azur.